Rebonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image, toujours une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Nous poursuivons notre couverture des rencontres internationales du documentaire de Montréal. Je vous rappelle qu'il va débuter le 12 jusqu'à novembre, jusqu'à la fin hein, du mois de novembre, et qui est divisé en blocs. Hein. Et donc, le premier bloc du 12 au 18 novembre va, entre autres, présenter le film de Félix Lamarche, Un fleuve l'hiver. Bonjour, Félix.
Salut. Bonjour, Félix.
Ça va bien? Félix, on va juste se rapprocher un petit peu du micro. Oui. Hein? Ah, voilà, voilà. Voilà, on sent comme à la maison. Hein?
Yes.
Hey, le fameux fleuve, l'eau, hein? C'est quelque chose qui te hante? Hein, parce que quand on regarde les terres lointaines, il y a toujours de l'eau. T'es hanté, fasciné?
J'arrive pas à me débarrasser des bateaux.
Non, hein?
C'est eux autres qui viennent me chercher.
C'est eux qui viennent te chercher.
Oui, c'est ça. Mais ben oui, c'est un sujet puis un thème récurrent. Ouais.
Mais cette fois-ci, on est, je veux dire, en hiver.
Exact, en hiver, sur un brise-glace.
Sur un brise-glace.
Sur le fleuve.
Sur le fleuve. Et ce que j'ai trouvé fascinant, entre autres, dans le fleuve l'hiver, c'est les 4 ou 5 premières minutes avant le titre. Hein? Pas un mot. Et là, c'est des images, bon, c'est un tableau. Hein? De réussir à filmer, je veux dire, ce fleuve d'une façon, je veux dire, qu'on voit pas, hein, où on est effectivement dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand. Hein, et je regardais ça, puis je me disais, on est face finalement à toute une expression, je veux dire, presque symbolique, je veux dire, du fleuve l'hiver. Mm. Et c'est ce que tu cherchais à faire, hein, j'ai l'impression. Hein, il y a un peu ce côté expérimental. Hein, comment utiliser l'image pour arriver à transcender finalement l'infiniment grand et l'infiniment petit?
Oui, exact. Ben, ce que je cherchais aussi, c'est à donner une nouvelle perspective du fleuve. Parce que la navigation dans le fleuve l'hiver, c'est assez rare, c'est assez limité. Souvent, ça prend un brise-glace. Donc, tu sais, on le connaît de la rive. Moi, c'était un peu mon présupposé, ouais. Mais le connaître, disons, en son cœur, durant l'hiver, c'était quelque chose qui était assez inusité. Puis je pense que, tu sais, justement, comme tu dis, les premières minutes du film, pour moi, c'était vraiment d'essayer de tout de suite immerger le spectateur dans cet univers-là, puis qu'il soit tout de suite happé par, disons, la force puis la dimension un peu du fleuve, là. Puis de la machine qui est un brise-glace là, qui navigue dans le fleuve.
Puis Guy, tu parlais d'infiniment petit, d'infiniment grand, mais dans le fond, moi, ce qui m'a fasciné de ton film, c'est dans le fond, ce que tu filmes, c'est la frontière entre les deux. On voit la glace, mais tu parles beaucoup, on entend beaucoup les entrevues de ce qui se passe en dessous, mais on le voit jamais. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on voit ces images de glaciers, de glace qui se brisent, mais il y a toujours cette partie d'inconnu devant nous qui reste là puis qu'on veut savoir en fait ce qui se passe.
Ouais, ben en fait, tu as tout à fait raison, puis je pense que tu sais comme c'était quelque chose qui était en tension peut-être dans le film, tu sais, à la fois la science, c'est un processus, c'est une démarche humaine qui vise à connaître mieux le monde dans lequel on vit, mais je te dirais mon film, il cherche aussi à préserver une sorte de mystère un peu, fait que je pense que c'est un dialogue intéressant entre l'art puis la science, peut-être, sur la fonction que chacun peut avoir pour nous. Mais c'est ça, une des raisons aussi pourquoi on voit pas beaucoup en dessous du fleuve, c'est parce que c'est techniquement difficile d'aller filmer, surtout en hiver à cause de la glace. Mais je trouvais que c'était intéressant de préserver un petit peu ce mystère-là, puis cet univers-là qui est encore très, très extraterrestre là, pour nous. Là. Fait que tout ce qu'on peut voir, c'est les petits animaux, le zooplancton qui vit dans l'eau, mais on le voit au microscope, sinon, ben c'est ça, c'est pas quelque chose qui nous est encore vraiment pleinement accessible.
Mais c'est vraiment la poétique de l'image qui est, je veux dire, au cœur du film. Parce que oui, il y a ce dialogue avec la science, parce que essentiellement, ce qu'on constate, c'est que finalement, c'est un groupe de scientifiques là, qui l'hiver, finalement, vont chercher des faits pour leur recherche, poursuivre leur recherche. Mais au-delà de ça, pour moi, ce qui m'a vraiment capté, je veux dire, c'est cette poétique, finalement, aussi. Je veux dire, de l'image. Comment qu'on peut, je veux dire, à travers je veux dire, ces morceaux de glace et ce fleuve-là, et rendre finalement, je veux dire, l'image accessible.
Hein? Ben complètement, tu sais, c'est un des enjeux du film, c'est comment parler de la science, mais aussi comment parler de la nature, ou de l'environnement, mais d'une manière qui n'est pas technique ou théorique. Puis moi, c'était très clair dès le début que je voulais pas rentrer dans un discours scientifique, technique ou explicatif ou didactique. je me disais justement qu'est-ce que l'image cinématographique peut dans ce contexte-là, mais tout en essayant de créer un pont avec la science. Mm-hmm. Mais tu sais, t'as entendu que je voulais pas faire un épisode de découverte, là, on s'entend là-dessus. Non. Mais c'est ça, tu sais, comme tu parles de la poétique de l'image, je pense que moi, ça me parle dans ma démarche, là, justement. Là, comment faire parler le fleuve un peu, mm-hmm. mais avec l'image, avec le son. Ouais.
Ça a toujours été particulier parce qu'on regarde, quand on regarde le cinéma à travers le temps, on a à peu près tout filmé, excepté le vent. Il y a une histoire de vent, Jaurès Hiverne, où il a essayé de filmer le vent. Mais essentiellement, je veux dire, il y a des éléments, hein, de la nature qui sont difficiles à filmer. Okay? Et l'eau, je veux dire, est un cas, parce que l'eau, ce qu'on voit, il a quelques images. On retrouve un peu ces images-là dans ton film, c'est finalement ces vagues, hein, où vraiment ça vient comme un tapis, je veux dire, un peu inaccessible. Okay? Mais comment arriver à dépasser, hein, ces premières images-là, puis nous faire découvrir qu'est-ce qui se cache derrière cette vague-là, derrière ce tapis, c'est assez rare. Et toi, tu réussis, je trouve qu'à travers l'image, tu réussis finalement à nous questionner sur... sous, je veux dire, cette image-là, cette façade-là, il y a quelque chose d'autre, et il y a un mystère, et ce mystère-là, je veux dire, doit rester, bien sûr, mais on peut aussi tenter de l'explorer. Hein?
Bien, complètement, puis ça me fait penser à... Ce que tu dis, ça me fait penser à... Je pourrais plus la pointer précisément, mais je pense que c'est Raymond Depardon qui avait dit, tu sais, le désert, c'est une des choses les plus dures à filmer, puis... Oui. Moi, je suis repensé à ça quand je filmais la mer dans les films que j'ai faits, puis je me disais toujours, ben la mer aussi, c'est une des choses les plus difficiles à filmer, juste en termes de perspective, ou de donner une échelle un petit peu des dimensions, ou juste toute la dimension sensorielle, je pense, de cet environnement-là, qui est vraiment difficile à restituer dans un film. D'une part parce que le cadre nous limite, mais aussi parce que, juste au niveau sonore, c'est très difficile de capter les subtilités des sons, soit des vagues ou de la glace. Là. Ça a été quelque chose pendant le tournage qui a été un...
Oui, ça, je voulais y revenir. Tout l'aspect sonore là, du film là, je veux dire, est important. Parce que oui, on est capté par les images. Oui, je veux dire, il y a cette beauté, hein, je veux dire, parce que c'est effectivement, je veux dire, le cas. Ces tableaux-là sont extrêmement beaux. Mais il y a aussi un environnement sonore. Et le cinéma, c'est fait d'images, mais c'est fait de sons. Et le film aussi, pour moi, je veux dire, vient par nous captivé parce que, je veux dire, on est capable de retrouver un peu l'environnement sonore. Et ça, c'est un travail d'immersion. Je pense que tu n'aurais pas pu arriver à faire la même chose si tu n'avais pas été sur le bateau, si tu n'avais pas, dans un certain sens, vécu, je veux dire, un petit peu, je veux dire, c'est quoi être sur le fleuve, sur l'estuaire, je veux dire, en hiver, et lorsque tout doit être arrêté dans un certain sens, et chercher, trouver les vrais sons, entre guillemets, là.
Ben oui, puis je te dirais, tu sais, la prise de son, moi, j'ai tourné en solo, là, fait que j'ai fait la caméra, la prise de son.
La réalisation, la production.
Le montage, ouais, pas mal d'affaires. Mais la prise de son, c'était un gros défi parce que, justement, restituer, je te dirais, le détail des textures, c'était très difficile, là. Notamment, mettons, quand le brise-glace rentre dans la glace ou juste la texture des vagues, avec les micros que j'avais à ma disposition, mais je pense qu'avec l'attirail sonore en général, c'est assez difficile. Fait qu'il y a aussi un travail de bruitage après avec le concepteur sonore pour ramener un petit peu ce côté-là de détail dans le son pour qu'on puisse restituer ou tenter de restituer qu'est-ce que cette expérience-là est. Mm.
Et ça, on ne l'a pas mentionné, mais dans ton cas, c'est un court-métrage.
Hein?
Ouais. Et c'est intéressant parce que je l'ai mentionné au début d'émission, on a souvent l'impression que le court, puis tu as fait un long-métrage, hein? Donc tu sais, les terres lointaines, c'est, le court est un peu mis à part, mais ça reste que finalement, en 30 minutes, dans ton cas, on peut arriver, je veux dire, à faire ressortir une ambiance, hein? une genre de sensation, je veux dire, et c'était peut-être l'objectif aussi de dire on va faire un cours puis on va se consacrer davantage sur, moins sur le propos, mais sur la sensation d'être, je veux dire, parmi ou dans le fleuve ou à l'intérieur du fleuve, je sais pas trop comment le dire, là, mais d'être en osmose avec le lieu.
Ben complètement, parce que, tu sais, justement, en abordant le sujet avec les scientifiques, une des perspectives qui m'intéressait, c'était, disons, leur comment eux, comme êtres humains, vivaient le fait d'étudier le fleuve puis d'être dans le fleuve en hiver. Fait que je pense que, tu sais, pour être capable de parler de ça, il faut parler de la dimension sensorielle, un peu comme tu parles. Fait que oui, tu sais, comme ça, c'est important. Puis je pense qu'en tout cas, dans le format d'un court-métrage, c'était possible.
Ouais.
Au départ, je voulais faire un film plus court, mais finalement, je me suis rendu compte en le faisant que ça prenait quand même un certain temps avant d'être capable de s'immerger de, comme suffisamment dans cet environnement-là. Ouais.
Non, il faut que la durée fasse son travail.
Exact, ouais. Exact.
Et parfois, c'est important d'allonger certains plans pour qu'on puisse vraiment saisir notre rapport qu'on a au fleuve et à l'image, en ce cas ici.
Ben complètement, là, je veux dire, tu peux pas vivre cette expérience-là en 5 minutes, je pense.
Non, ça prend un 30 minutes. Et j'invite tout le monde à aller voir le film de Félix, magnifique portrait sur notre fleuve et l'hiver. Hein? Et surtout que, je sais pas, toi, tu as fait certaines recherches, mais de mémoire, je pense que c'est le premier film qui est consacré uniquement, je veux dire, à l'hiver sur le fleuve. Tu sais, on va filmer des canaux, on va filmer plein de choses, mais de s'intéresser à notre fleuve en cette période de l'année, moi, j'avais pas vu grand film hein, qui s'attardait à cette dimension-là du fleuve.
Je sais, j'ai trouvé ça. Moi aussi, j'ai fait des recherches parce qu'à chaque fois que je tourne un film, je m'intéresse à ce qui a été fait avant.
On va pas pouvoir faire la même chose dans
ça. Non, c'est ça. Puis j'étais comme très étonné, surtout par rapport au fait que, bon, tu sais, le fleuve, on en parle souvent, on en entend souvent parler. C'est comme. C'est une évidence, tu sais, dans notre paysage, puis dans notre.
On a même tendance à l'oublier tellement il est proche.
Exact. Dans notre inconscient, c'est comme une évidence un petit peu, notre inconscient collectif ou en tout cas notre imaginaire collectif plutôt. Mais c'est ça, j'étais très surpris de voir qu'il n'y avait pas de film qui s'était spécifiquement consacré au fleuve en hiver. Mais je pense que ça a beaucoup à voir avec le fait que c'est très dur d'accès. Puis bon, c'est la mission scientifique que moi j'ai suivie, c'était seulement la deuxième dans l'histoire de la recherche scientifique au Québec, à vraiment aller dans le fleuve pendant 2 semaines. Donc, c'était seulement la deuxième fois que ça se faisait sur un brise-glace là, durant l'hiver dans le fleuve. Fait que juste ça, ça nous dit à quel point on est au début de cette rencontre-là entre nous puis le fleuve en hiver. Puis je pense que le film, c'est comme peut-être un premier pas vers ça. Là.
Donc, on vous rappelle que le film de Félix Lamarche, Un fleuve l'hiver, est présenté dans ce premier segment, hein, DRIDM, qui débute du 12 au 18 novembre. Et c'est sur le site, c'est magnifiquement bien fait parce que vous allez dans la section Explorer la nature. Donc, des films qui explorent notre rapport à la nature, à l'environnement, sous toutes ses formes. Et Félix, je pense que ton film représente bien, hein, je veux dire, ce segment. Donc, voilà. Et nous, on va peut-être prendre une petite musique hein, avant de revenir pour les dernières minutes. Parce qu'on va faire peut-être un petit peu un wrap-up, hein, excusez le terme anglais, de quelques films qui sont présentés à l'IDM. Donc, merci beaucoup, Félix.
Ben, un grand merci à vous.